conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Volet numéro 2 de mon interview de Franck Nass. Franck Nass, président bénévole de Caritas Habitat. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Alors, nous avons dans la première interview un petit peu défini les limites de Caritas Habitat et la manière dont vous étiez en rapport avec les associations et quel type d'habitat pour quel type de population. Vous avez commencé à nous parler, à nous donner quelques exemples, dont un exemple à Montreuil, où vous réhabilitez pour une centaine de lits pour le SAMU social un immeuble. Et donc ça, c'est une opération en soi. J'ai cru comprendre qu'il vous arrivait de travailler avec des promoteurs, avec, dans d'autres circonstances, avec une mixité d'usage et une mixité de produits, même si le mot est absolument horrible, mais enfin, en tout cas, une mixité d'habitat qui permettait d'avoir donc un panel extrêmement intéressant. Vous pouvez un peu nous en parler ?
Oui, donc par définition, on intervient donc dans des villes où il y a une forte densité et où il y a une toute grande pauvreté. Et donc effectivement, pour construire dans la ville aujourd'hui, donc, et pour accéder donc aux fonciers, il faut qu'on puisse également être partenaire donc de projets qui font soit des appels à Réinventons Paris ou des appels d'idées lancés par donc dans les villes. Et donc un ensemble de promoteurs, on a eu deux expériences récentes sur le sujet, une avec Emmerich et une avec Quartus, où on prend en charge donc dans le projet une partie de ce qui sera la quote-part donc sociale donc du projet pour réaliser donc un ouvrage pour le compte encore une fois d'une association donc identifiée. Et donc on va leur donner la programmation de l'ouvrage dont on a besoin par rapport à l'association, donc, et on va devenir propriétaire donc de ce bien. On va pas pénaliser le promoteur au sens c'est qu'on va l'acheter au prix du social.
D'accord.
Donc pour lui ça ne dégrade pas donc sa marge. Et par contre il a peut-être l'avantage de pouvoir offrir une palette d'opérateurs un peu différent, parce qu'il faut savoir que
c'est ça. C'est pas une VFA classique pour un bailleur
voilà.
Classique.
C'est donc ça va être une VFA donc pour un bailleur donc très social, mais un projet complètement adapté à une SOS donc pour laquelle donc on mettra donc en location à un prix le plus bas possible, le plus bas auquel j'arriverai pour rembourser mes emprunts sur 40, 50, 60 ans.
Et donc ça permet d'avoir aussi des espaces communs qui seraient, où il serait envisagé de partager un espace commun entre copropriété, primo-accédant, on va dire en banlieue parisienne, et Caritas Habitat, et des associations qui ont contracté avec vous un contrat via Caritas Habitat.
Oui, donc forcément, donc la mixité arrive par les différents opérateurs ou investisseurs qui vont investir sur le bien mobilier concerné. Et donc l'avantage de travailler bien sûr sur du neuf, c'est qu'on peut le composer en fonction de ses besoins spécifiques, hein, ce qui est plus difficile à faire lorsqu'on est bien sûr en rénovation, où là on est quand même coincé par le cadre préexistant. Mais on a quand même un espace de liberté important, et donc l'avantage de ce montage de dossier, c'est ce que font d'ailleurs les promoteurs lorsqu'ils vont écrire leur projet, donc qui doit être le plus inventif possible, qui soit le plus créatif possible, où effectivement la mixité sociale ne soit pas simplement quelques lignes sur un projet, mais qu'elle se traduise réellement par une réalité donc d'exploitation donc future. Et donc ça leur permet aussi d'offrir une palette donc d'offres donc différenciées qui peut aider le promoteur parfois à remporter donc ce projet. Et pourquoi la ville sont intéressées? C'est parce que ces demandes d'associations donc pour être hébergées sont extrêmement importantes et ils sont complètement démunis par rapport à ça. Et donc d'avoir un opérateur qui apporte une réponse sur leur territoire à ces assos qui sont reconnus, c'est pour les élus donc un moyen effectivement de répondre à leur propre vocation.
À l'inquiétude des élus sur le fait de effectivement pas pouvoir apporter à ces populations une vraie réponse.
Exactement. Donc pour eux c'est un moyen en plus pour répondre à ce besoin, et donc opérateur qui n'existait pas en tant que tel sur le marché jusqu'à présent.
Et alors, est-ce que ça pourrait permettre, dans des copropriétés très dégradées, et malheureusement, on sait qu'il y en a énormément, de rénover leur patrimoine, de pouvoir en partie modifier la valeur d'usage de leurs biens et faire, une espèce d'équilibre entre un habitat pour les plus démunis et une réhabilitation d'une copropriété dégradée?
Alors, c'est pas inenvisageable. J'ai pas d'expérience encore sur des copropriétés dégradées. Il faut faire juste attention qu'on ne soit pas embarqué dans un ouvrage dont la sortie est pour le moins extrêmement difficile. Donc, par contre, on peut apporter notre pierre à l'édifice sur une partie en tout cas de cette copropriété, sur un équilibre financier autour de ce qu'on serait responsable. Et donc on peut être un des éléments fédérateurs d'une recomposition donc immobilière sur l'ouvrage concerné. Mais en aucun cas on peut sauver une copro coulante.
Alors, sur le type d'habitat, sur la construction, la préfabrication, est-ce que vous essayez de construire moins cher? Parce que au fond, dévaloriser l'habitat, réduire les coûts, c'est aussi une manière d'amener une réponse.
Oui, mais c'est là où on a besoin également toute la compétence donc, de l'architecte. C'est à la fois de pouvoir s'insérer dans un tissu urbain, c'est de pouvoir correspondre à un cahier des charges qui est très spécifié, et bien sûr construire donc le moins cher possible pour qu'on puisse encore une fois donc offrir un loyer le moins cher possible. Donc cette composante-là, en tant qu'architecte, vous la connaissez donc par cœur, l'exercice est souvent difficile, et la marge de manœuvre est rarement très très importante. S'il y avait des préfats magiques, ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvé.
Évidemment.
Donc on sait à chaque fois, c'est un travail extrêmement minutieux, particulier. Donc à chaque fois, c'est un travail vraiment... pièce par pièce, vraiment, ouvrage par ouvrage. C'est ce qui en fait peut-être aussi l'intérêt, c'est qu'on tout projet, vous le savez bien,
donc, est unique.
Est unique par ce qu'on va y faire, par le lieu où on est, etc. Donc, un des premiers qu'on a livré, par exemple, pour illustrer un peu le propos, c'est la Maison des Sages, donc à Bure-sur-Yvette, donc qui est une maison pour les gens Alzheimer et donc qui sont très associés, dont le projet social leur permet d'être très actifs et donc de ralentir la maladie qui n'est pas soignable en tant que telle. Et donc là, c'est pour une dizaine de patients, donc ça veut dire qu'ils sont très peu nombreux, ils ont chacun leur appartement, il y a autant d'accompagnants que de personnes malades. Avec un gériatre donc très spécialisé qui leur permet effectivement d'avoir un projet social qui permet de ralentir la maladie et donner sens à leur vie jusqu'à la fin.
Et alors du coup, vous arrivez à avoir un modèle économique qui vous permette de tenir sans gagner vraiment de l'argent, mais d'être sûr d'avoir une vraie pérennité de l'association et,
Alors on est bien sûr sur le fil du rasoir, donc, puisque notre vocation c'est justement pas gagner d'argent mais pas d'en perdre. Donc le seul objectif c'est de recomposer les fonds.
La levée de fonds que vous allez faire bientôt.
Et de pouvoir également rembourser mes actionnaires quand ils veulent sortir, donc ils ont le droit bien sûr de sortir, donc il faut que je puisse être à minima liquide pour les rembourser, une fois qu'ils ont bénéficié donc de cette baisse donc d'impôts. Et donc l'équilibre économique, il est lié sur un TRI, enfin, il n'y a pas beaucoup de foncières qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'on est sur 1,6, c'est-à-dire un TRI extrêmement bas. Donc oui, bien sûr qu'il y a un risque immobilier, parce qu'on est sur 40, 50, 60 ans, mon locataire lui prend des baux donc, de 12 ans, et donc je suis toujours à la merci d'un locataire qui ne paierait pas, je n'ai pas de garantie sur les loyers, donc, ou d'une non-utilisation donc, du produit après la fin du premier bail, par exemple, si mon locataire donc, partait.
Si le locataire est défaillant, est-ce qu'il y a une substitution qui peut se faire, une autre association, voire la caisse, voire
on cherchera effectivement un peu comme une démarche.
Parce que les associations parfois n'ont pas de pérennité, malheureusement, ça peut arriver.
Voilà, donc mais l'immeuble préexiste et continue à exister indépendamment effectivement de l'utilisateur. Donc par contre, là on sera très vigilant dans la programmation de l'immeuble, c'est bien sûr le cahier des charges très spécifique par rapport donc au projet donc qui est concerné, mais c'est aussi de pouvoir recomposer donc l'immeuble et donc pouvoir changer parfois de destination au regard des utilisations qui peuvent varier, soit parce que les besoins ont changé, soit parce que la SOS qui l'a porté donc a disparu ou n'est plus présente.
Et alors, par rapport vous nous donniez l'exemple donc d'un d'un bâtiment qui est fait pour des personnes très âgées, qui donc une centaine de lits à Montreuil. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part ce type de projet, de bâtiment, exclut un petit peu justement de la mixité ?
Alors,
c'est fragile, c'est difficile, mais
alors,
comment
là, en l'occurrence, on prend l'exemple d'un immeuble qui est spécifié pour une catégorie donc, du public, on peut parler donc, comme ça. Mais de plus en plus, et dans les immeubles sont mixtes, et même sur la partie sociale, ils concernent des publics extrêmement variés. Donc on a des opérations où on a des jeunes travailleurs, par exemple, qui sont complètement esselés ou qui reprennent des formations, etc. Et donc ça leur permet de le remettre dans un circuit, qui sont à côté donc, d'un truc de personnes âgées, qui sont eux aussi isolés. Donc nous, on traite en fin de compte des invisibles. Et donc on rend visibles ces invisibles, et par leur statut différencié, par un lieu de vie qui est commun, pour une part, et spécifié pour une autre, ça leur permet effectivement de partager. C'est comme ça qu'on a aussi des familles avec des femmes seules, avec enfants, par exemple. Mmh. Voilà. On crée des crèches également dans ces lieux-là, où parfois les jeunes travailleurs travaillent dans ces crèches, donc le soir. Donc on crée aussi parfois du travail interne sur également la cantine, qui s'ouvre également à l'extérieur, qui permet d'accueillir donc des gens sur des tickets d'entrée extrêmement bas, et de former donc des gens à la cuisine et au service. Enfin, on voit bien que...
Donc c'est un cercle vertueux.
Oui, enfin, on arrive à avoir des complémentarités qu'on ne pourrait pas avoir autrement et qui sont liées au fait qu'on partage un lieu en commun.
Donc ça veut dire que les associations pour lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous travaillez, doivent quelque part apprendre aussi à travailler ensemble.
Oui, et ça leur fait souvent d'ailleurs évoluer leur propre projet social. Donc elles sont elles-mêmes soumises effectivement aux subventions qui sont extrêmement aléatoires et variables. Et donc une asso qui peut travailler sur différents publics va assurer sa propre pérennité également en termes économiques.
Alors, il nous reste peu de temps avant de finir ce deuxième volet. Vous pouvez nous rappeler la levée de fonds, c'est quand, c'est qui, c'est...
Donc ça sera Caritas Habitat, donc ça sera donc en fin d'année, par voie de presse, donc on fera une communication importante sur le sujet. C'est économiquement intéressant, puisque donc vous défiscalisez donc jusqu'à 100 000 euros par couple, mais ça permet aussi de pour des sociétés de remplir une partie de leur mission peut-être sociale et solidaire en participant à cette levée de fonds. Mais ça peut être aussi pour des assos, pour des entreprises pardon. Donc je suis en train de rechercher parce qu'on n'a pas beaucoup de bras et on a beaucoup de projets donc à développer. Donc je prends un certain nombre d'amos professionnels pour nous relayer parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais je suis également preneur de compétences, donc de mécénat de compétences, comme on l'appelle, c'est-à-dire des gens qui vont être en fin de carrière et qui, avant effectivement de partir en retraite, vont pouvoir travailler pour nous sur des projets qui sont spécifiés, tout en étant rémunérés par l'entreprise qui elle-même bénéficie donc des déductions fiscales importantes. Et donc c'est une façon, je dirais là aussi, d'avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire que des gens qui donnent un sens aussi à leur suite de vie professionnelle, personnelle, tout en aidant donc des causes qui sont liées qu'à l'humanisme.
Écoutez, je suis contente que Conversation architecturale et urbaine a permis ce matin de mettre en lumière Caritas Habitat, et je vous remercie Franck, merci à vous.
Merci Myriam.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.